une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 9 novembre, ravi de vous retrouver, toujours à la même heure en Afrique, mais à 10h10 à Paris, je vous le rappelle, jusqu'au passage à l'heure d'été où nous reviendrons à 9h10. Nous allons parcourir le monde ensemble afin de revivre les principaux événements de ces derniers jours, grâce au reportage de la rédaction. Nous irons ainsi en Iran, en Irak, au Mali, en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Et notre compagnon de voyage sera Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques. Mais d'abord, une première image sonore. Sans tarder, partons pour Londres afin de revenir sur un rapport sur l'ingérence russe supposée lors du référendum sur le Brexit en 2016. Correspondance de Muriel Delcroix.
Le dossier d'une cinquantaine de pages a été rédigé par la commission parlementaire chargée des questions de sécurité et du renseignement. Il a examiné à la loupe les accusations d'ingérence de Moscou dans le référendum de 2016 et ses efforts pour influencer le résultat en faveur du Brexit. Le rapport s'est notamment penché sur l'injection de fonds russes dans la politique britannique en général et au sein du Parti conservateur en particulier. Une dernière mouture de ce document, déjà approuvé par les services de renseignement britanniques, devait recevoir le feu vert de Boris Johnson avant d'être publié cette semaine. Mais contrairement au protocole, Downing Street a refusé d'approuver le rapport avant la dissolution du Parlement mardi soir et empêche de fait que ses conclusions soient rendues publiques avant le scrutin anticipé du 12 décembre. Le président de la commission parlementaire, Dominique Grieve, a immédiatement condamné cette décision et a mis sérieusement en doute la véracité des raisons invoquées pour bloquer ce rapport. Ancien élu conservateur pro-européen, Dominique Grieve a été éjecté du parti pour s'être rebellé contre le gouvernement. Comme de nombreux députés de l'opposition, il accuse Boris Johnson, l'une des principales figures pro-Brexit en 2016, de chercher à étouffer l'affaire de peur que des révélations gênantes n'entachent sa campagne et amoindrissent ses chances de remporter les élections du 12 décembre.
Écoutez bien une semaine d'actualité à retrouver et à podcaster quand vous le souhaitez sur votre moteur de recherche préféré, le site de RFI, www.rfi.fr et l'application RFI 100% Radio, sans oublier la page Une semaine d'actu de Facebook. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Je suis sûr que cette musique vous inspire.
Ça rappelle des souvenirs, surtout dans
l'ambiance. Elle évoque l'Allemagne d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, jour pour jour, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin, c'était dans la soirée, commençait à s'effriter, si j'ose dire. Ça vous rappelle des souvenirs ?
Pas des souvenirs du jour même, parce que j'ai pas gardé un souvenir très précis du jour même. J'ai gardé plutôt des souvenirs précis de ce qui s'est passé quelques temps plus tard, pas très longtemps après. C'est de la chute du régime Ceausescu en Roumanie, cette impression de domino qui tous tombent les uns après les autres. Non, j'ai pas gardé de souvenirs, mais j'ai gardé des souvenirs de ce qui était avant, le monde d'avant. Et je pense que pour des gens plus jeunes, c'est difficile d'imaginer qu'on avait le sentiment, quand on vivait avant 89 en Europe, que le monde était coupé en deux, pas seulement l'Europe, le monde. Et c'était le temps de la guerre froide, effectivement. Alors, la coupure n'était pas extrêmement précise, parce qu'il y avait des pays qui n'étaient pas vraiment d'un côté ou de l'autre. Mais quand même, on avait cette impression qu'il y avait deux blocs. Et ça, ça a complètement disparu. Et je pense que pour des gens qui ont 20 ans ou 30 ans, c'est à peu près inconcevable qu'on avait l'impression qu'il y avait un autre monde de l'autre côté d'un grand mur, pas forcément réel, mais quand même d'un grand mur.
À l'époque, on pouvait lire le monde en fonction de Moscou et en fonction de Washington.
Oui, alors on peut toujours, mais simplement aujourd'hui, en lisant plus de Pékin, de Delhi, de Bamako, etc., les lectures étaient beaucoup plus clivées. Et surtout, on avait cette impression qu'il y avait un danger de l'autre côté. Et je pense que de l'autre côté aussi, on avait l'impression qu'il y avait un danger du côté européen de l'Ouest. Il y avait quand même cette idée qu'on pouvait être attaqué par l'Union soviétique. on calculait le nombre d'épreuves du Tour de France qu'il faudrait aux chars russes pour arriver à Paris, etc.
Oui.
Bon, c'était pas de la. Et puis surtout, il y avait une quantité invraisemblable, d'armes nucléaires qui étaient stockées des deux côtés. Donc, on a quand même eu des alertes nucléaires plusieurs fois entre les États-Unis et l'Union soviétique de l'époque, qui aurait pu très très mal tourner.
Ah, il faut rappeler que cette journée du 9 novembre était une journée un peu spéciale à Berlin, parce que finalement le mur s'est écroulé et les Allemands de l'Est ont pu quitter l'Allemagne de l'Est presque par hasard, hein, sur une décision prise par l'administration de l'Allemagne de l'Est sans trop savoir. Hein, c'était...
Non, à l'époque personne ne pensait, je crois, même en Allemagne de l'Est, à ce que la réunification puisse avoir lieu dans un délai aussi court, parce qu'elle a eu lieu pratiquement un an après, ou a été décidée en tout cas un an après. Tout le monde pensait à l'époque qu'il pouvait y avoir une coexistence entre peut-être une RDA qui évolue doucement vers quelque chose de plus démocratique, peut-être un peu plus capitaliste, mais en tout cas, pas que le mur s'effondre, que la frontière n'existe plus de façon aussi dure, mais pas que le mur s'effondre et que l'Allemagne soit réunifiée. Je pense.
Et tout d'un coup, un apparatchik du Parti communiste d'Allemagne de l'Est a dit « vous pouvez partir tout de suite ».
Oui, alors probablement, dans ce genre de régime-là, je ne crois pas que les apparatchiks avaient autant de pouvoir prendre ça tout seul comme décision. Probablement, il avait demandé au-dessus jusqu'où il pouvait aller.
Mais Moscou, visiblement, n'était pas au courant, semble-t-il.
Faudrait demander à Vladimir Poutine, qui à l'époque devait encore avoir de bonnes connexions RDA, puisqu'il a longtemps été basé dans ce pays, ce qu'il en était de la connaissance soviétique ou pas.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Iran maintenant, Yann, où c'est confirmé, le gouvernement a repris sa production d'enrichissement d'uranium dans l'usine souterraine de Fordo et donc son programme d'acquisition de l'arme nucléaire à Téhéran mardi. Tirvash Ghazi.
C'est une étape très importante dans la reprise des activités nucléaires de l'Iran. Le site de Fordo est situé sous la montagne et pratiquement impossible à détruire par des bombardements aériens. Dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015, Téhéran avait accepté de suspendre ses activités d'enrichissement à Fordo, mais avait décidé de maintenir quelques 1000 centrifugeuses de vieille génération sur place. La décision de Téhéran est une réponse aux sanctions américaines, mais aussi à l'inaction des Européens qui avaient promis à Téhéran de prendre des mesures pour compenser les sanctions prises par Washington. Mais en réalité, les pays européens n'ont rien fait de concret pour permettre à l'Iran d'exporter son pétrole et d'avoir des relations bancaires normales avec le reste du monde. Dans le même temps, les autorités iraniennes ont dévoilé de nouvelles centrifugeuses encore plus puissantes. L'Iran accélère donc son programme d'enrichissement d'uranium. Désormais, Téhéran produit 5 kg d'uranium enrichi par jour contre 1,5 kg il y a 2 mois. Les nouvelles centrifugeuses permettront à Téhéran d'augmenter encore ses capacités d'enrichissement, ce qui constitue une réponse très claire aux sanctions américaines.
Franchissons la frontière, Yann, et partons maintenant pour l'Irak pour faire un point sur les très violentes manifestations contre le régime qui secoue le pays depuis plusieurs semaines maintenant. Pour prendre la mesure de cette crise, écoutez par exemple ce reportage signé Sami Boukhalifa.
La structure en béton armé est imposante. D'immenses drapeaux irakiens s'élancent du 14e étage pour se jeter dans le vide et recouvrir partiellement le bâtiment éventré aux allures de squat géant. Moussa Ramatala campe au 10e étage.
Cet immeuble appartient désormais aux jeunes révolutionnaires irakiens qui ont lancé le mouvement de contestation début octobre. Lors de ces manifestations, c'est ici que s'était positionné un tireur embusqué, un mercenaire, un assassin qui ciblait la foule. Nous nous sommes finalement emparés de ce bâtiment pour garantir notre sécurité.
Depuis le début de la contestation, près de 300 personnes ont été tuées. Selon le jeune Moussa Ramatala, le pouvoir irakien est à l'origine de ces violences.
Nos autorités corrompues ont recours à tous les moyens pour nous faire peur. Mais nous sommes déterminés. Nous ne reculerons pas. Nous exigeons la démission du gouvernement, la dissolution du Parlement et la fin des ingérences étrangères. Nous voulons que l'Irak recouvre sa souveraineté.
Hors de question pour Moussa Ramatala et ses compagnons de quitter leur tour baptisé Jabal Uhud en référence à la bataille du même nom menée par les musulmans lors des premiers temps de l'islam.
À suivre, bien entendu, dans nos journaux. Yann, nous allons commencer avec l'Iran. Un auditeur qui s'appelle Piron et qui habite Bouaké se demande si l'Iran n'a pas été trahi par ses partenaires de l'Union européenne face aux sanctions américaines.
Le terme de partenaire de l'Union européenne... que serait l'Union européenne par rapport à l'Iran est peut-être un peu ambigu, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait ensemble, tous ces pays, c'est de signer un accord. Alors, est-ce que le fait de signer un accord vous rend partenaire? Je suis pas absolument certain. Ce qui est, en revanche, évident, c'est que les Européens ne vont pas se fâcher avec les États-Unis pour faire plaisir à l'Iran. Et quand je dis se fâcher, c'est pas une question diplomatique, c'est une question économique très claire. Les États-Unis, à partir du moment où ils ont décidé de se retirer de l'accord, que Trump a décidé de se retirer de l'accord, ont décidé aussi d'imposer des sanctions à tous les acteurs non américains qui feraient du commerce avec l'Iran. Oui. Ce qui veut dire, en gros, aux entreprises européennes. Qui, du coup, ont le choix. Soit elles font du commerce avec l'Iran, soit elles font du commerce avec les États-Unis. La taille du marché américain est évidemment sans commune mesure avec le marché iranien. Donc, il est évident que, quelle que soit la bonne volonté des dirigeants européens et leur envie de trouver un modus vivendi avec l'Iran pour éviter qu'ils reprennent ces activités de production d'enrichissement d'uranium, c'est sûr que les intérêts de leurs entreprises sont beaucoup plus importants. Et donc, effectivement, je ne sais pas si l'Iran a vraiment cru que les Européens arriveraient à trouver une combine pour pouvoir continuer à faire du business avec lui tout en faisant du business avec les États-Unis. Visiblement, ils ne se sont pas parvenus. Je sais qu'il y a un mécanisme assez compliqué qui a été mis sur pied. Je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Donc, il ne faut pas rêver.
Alors, l'Irak, maintenant, et ses manifestations très violentes qui ont fait des centaines de morts à ce jour, comme le rappelait Sami Boukhalifa tout à l'heure, elles ont un sens aussi. Et l'Iran est pointé du doigt aussi dans un
certain
sens.
Bien sûr. Alors, les raisons essentielles de ces manifestations ne sont pas géopolitiques, elles ne sont pas diplomatiques. Qu'est-ce que veulent les jeunes Irakiens? Ce sont beaucoup des jeunes qui manifestent. Ils veulent des choses assez simples. Ils veulent du travail, puisque beaucoup d'entre eux sont diplômés. Ils veulent que l'eau coule dans les robinets tous les jours et ils veulent de l'électricité autant que possible toute la journée et tous les jours. Des choses que, je pense, certains de nos auditeurs africains comprennent très bien et voient très bien de quoi je parle. Et par ailleurs, ils veulent aussi, mais c'est plutôt venu un peu plus tard dans les manifestations, puisqu'ils ont lieu déjà depuis début octobre, ils veulent aussi la fin de l'ingérence iranienne en Irak. Pourquoi ? Parce que quand, en 2003, les Américains ont renversé le régime de Saddam Hussein, les Américains avaient l'idée que le régime qui prendrait la suite de Saddam Hussein serait un régime pro-américain. Le problème, c'est qu'ils ont investi pour ça dans l'opposition irakienne, laquelle l'opposition irakienne n'était pas dominée du tout par des pro-américains, mais par des pro-iraniens, des gens qui avaient été soutenus par l'Iran depuis très très longtemps contre Saddam Hussein, et qui assez naturellement ont gagné les premières élections après la chute du régime de Saddam Hussein. Et on a vu se mettre en place un pacte politique, alors qui n'est pas un pacte écrit, mais un pacte informel entre quelques grands partis, représentant d'une part les Arabes chiites, qui sont la majorité en Irak, les Arabes sunnites, et puis les Kurdes qui sont sunnites, qui ne sont pas arabes du coup. Et ces partis, en fait, se répartissent les ministères et surtout se répartissent aussi la haute fonction publique. Ce qui veut dire que demain, si les manifestants irakiens obtiennent, par exemple, qu'un gouvernement de technocrates soit nommé, ces technocrates, en fait, n'auront pas la main sur leur administration qui restera contrôlée par les partis politiques. Ce qui rend l'issue politique des manifestations irakiennes très compliquée.
Alors le Liban, les écoliers et les étudiants ont manifesté jeudi par milliers dans ce pays où un soulèvement, on le sait, on en a parlé depuis deux semaines, un soulèvement inédit contre les dirigeants politiques accusés de corruption et d'incompétence est entré dans sa quatrième semaine. Quel regard portez-vous sur ce mouvement spontané et populaire?
Ce qui est intéressant avec le mouvement libanais, c'est que pour la première fois, il est vraiment transcommunautaire, oui. Je dirais. On avait déjà eu des contestations les années passées, en 2005 notamment, au moment de l'assassinat de Rafik Hariri, des contestations d'assez grande ampleur. Mais globalement, certaines communautés, notamment je pense à la communauté chiite, étaient restées quand même plutôt en marge. Là, c'est tout le monde. Pourquoi ? Un peu pour les mêmes raisons qu'en Irak. C'est qu'on a une jeune génération qui a grandi après la guerre civile. Pour qui le souvenir de la guerre civile, évidemment, elle sait que ça a existé, mais c'est pas son problème d'aujourd'hui. Et c'est pas elle a pas peur que la guerre civile reprenne forcément, même s'il y a juste à côté la Syrie, dont, le souvenir, alors du coup, très récent pèse, mais quand même. Ces jeunes Libanais, ils veulent quoi? Ils veulent du travail, ils veulent de l'électricité, ils veulent d'eau, ils veulent à peu près la même chose que les jeunes Irakiens, dans un système politique qui est un peu différent, parce que là, du coup, c'est la constitution qui prévoit que le président est chrétien maronite, le premier ministre est sunnite, et le président de l'Assemblée est chiite. Et ensuite, ça continue comme ça dans la plupart des grands postes importants de l'État et de l'administration. Et donc, c'est la fin de ce système aussi que demandent les jeunes Libanais qui manifestent. pas parce qu'ils sont, ils n'ont aucun attachement à leur communauté d'origine, mais parce qu'ils pensent que ce n'est pas le problème et que ce système est plus pernicieux qu'il n'est utile aujourd'hui.
Alors, autre fait notable dans l'actualité cette semaine, l'actualité internationale, c'est la menace turque. Ankara menace en effet de renvoyer chez eux tous les djihadistes étrangers, jusqu'ici prisonniers sur son sol. Et l'on a appris hier que la Turquie pourrait passer des paroles aux actes dès lundi prochain. À Istanbul mardi, Anne Handlauer.
Nous ne sommes pas un hôtel pour membres de l'État islamique. La formule signée du ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, est abrupte, mais elle exprime la lassitude des autorités d'Ankara face au nombre grandissant de djihadistes étrangers détenus dans le pays. Elle illustre aussi leur rancœur face aux États qui dénoncent les actions de la Turquie en Syrie et l'accusent de compliquer la lutte contre le groupe État islamique, tout en refusant de récupérer leurs ressortissants partis rejoindre les rangs de cette organisation. Les capitales occidentales s'inquiètent des risques sécuritaires que pourraient créer ces retours et de leur impopularité dans l'opinion publique. Ankara dénonce notamment des pays comme la France, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas qui ont déchu de leur nationalité des djihadistes présumés pour éviter d'avoir à les récupérer. La Turquie a jugé le procédé inacceptable et a promis de les renvoyer dans leur pays, que ces derniers leur retirent leur nationalité ou pas. Selon les chiffres officiels, près de 1200 membres étrangers du groupe État islamique sont actuellement détenus en Turquie. Ankara affirme par ailleurs avoir capturé 287 djihadistes et membres de leur famille dans le cadre de son offensive récente contre les forces kurdes en Syrie.
Yann Mince, parlons maintenant d'une nouvelle preuve gênante pour Donald Trump. Un diplomate de son administration a reconnu en effet que le président américain avait promis une livraison d'armes à l'Ukraine en échange d'informations sur les affaires du fils de Joe Biden, candidat, on le sait, démocrate à la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, à New York, mardi, Lumna Anaki.
Dans une lettre de 3 pages adressée à la commission d'enquête du Congrès, Gordon Sandland revient sur son premier témoignage. L'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne dit s'être souvenu d'une conversation en marge d'une rencontre entre le vice-président Mike Pence et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « J'ai dit à l'un des conseillers du président Zelensky que l'aide promise par les États-Unis dépendait de l'ouverture de l'enquête officielle qu'on avait déjà évoquée à plusieurs reprises », écrit Gordon Sandland. Un revirement, car lors de son premier passage à huis clos devant la commission, Gordon Sandland avait expliqué ne pas connaître les raisons du blocage de l'aide militaire américaine. Ce nouveau témoignage confirme un peu plus les soupçons de pression sur l'Ukraine de la part de la Maison-Blanche en échange de l'ouverture d'une enquête sur l'un des principaux candidats démocrates, Joe Biden. C'est la première fois qu'un proche de Donald Trump offre un témoignage aussi incriminant pour le président américain, alors que la liste des témoignages à charge dans cette affaire dite ukrainienne continue de s'allonger. De nouveaux responsables ont également été entendus, parmi eux un ancien envoyé spécial en Ukraine qui lui aussi a évoqué le rôle joué dans ce dossier par l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, qui aurait été à la tête d'un canal diplomatique de l'ombre. De son côté, la Maison-Blanche continue de dénoncer une campagne orchestrée par les démocrates et les républicains réaffirment leur soutien au président américain.
Et à noter également aux États-Unis la victoire surprise des démocrates dans 2 élections locales au Kentucky et en Virginie. Donald Trump est en difficulté, mais sa destitution n'est pas à l'ordre du jour.
Éventuelle destitution dépend du Sénat. En fait, parce que si la Chambre des représentants vote le principe de l'impeachment, ensuite il faut que le Sénat décide d'un procès, instruise le procès. Le Sénat est dominé par les républicains. Et donc il est peu probable que les sénateurs républicains se coupent de Donald Trump. Pourquoi ? Pas parce qu'ils l'apprécient peut-être, mais parce que la base républicaine aime bien, la base des électeurs républicains aime beaucoup Donald Trump pour l'instant. Tant que
pour l'instant.
Oui.
Les élections sont dans un an. Est-ce que ça va durer ?
Et pour l'instant, on dit ça depuis maintenant 2 ans et demi, et ça tient pour l'instant. Effectivement, je suis pas sûr que les sénateurs, d'ailleurs les représentants républicains non plus, mettront en danger leur mandat s'ils ont l'impression qu'en condamnant Donald Trump, ils risquent d'être condamnés eux-mêmes derrière par leurs électeurs. C'est un jeu dangereux. Les parlementaires, en général, ne jouent pas trop avec leur élection.
Alors, il faut aussi noter dans l'actualité internationale de violents affrontements à nouveau en Bolivie, hein, entre les partisans du président Morales, des mineurs notamment, et les opposants. Ces dernières semaines ont été marquées par des manifestations d'ampleur en Amérique latine. Ça signifie quelque chose pour vous ?
Oui,
notamment au Chili, évidemment.
Il y a des manifestations, mais elles sont de nature très différente. Au Chili, on est vraiment sur des manifestations qui sont liées à des questions économiques et sociales. Ouais. C'est en gros la conséquence du grand programme de libéralisation économique qui a été mis en place dès la dictature de Pinochet et que les régimes démocratiques ont poursuivi. Mmh. Voilà, les Chicago Boys de l'économiste américain Milton Friedman. Donc la privatisation outrance, privatisation de la santé, de l'éducation, etc., qui fait qu'effectivement, les gens qui ont de l'argent, ça va pour eux, et ceux qui ont peu d'argent, bah, tant pis pour eux, ils ont droit à des services publics ou en mauvais état, ou ils ne peuvent pas se payer les services privés. En Bolivie, on est sur un problème politique, c'est que Morales a obtenu au forceps de pouvoir faire un nouveau mandat, ce qu'une partie de l'opposition et de la population ne supporte pas, et maintenant, le bras de fer se joue dans la rue.
Et il est violent.
Et il peut être violent.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons faire étape en France, Yann Mince, avec d'abord un détour par Pékin. Pour revenir sur le voyage d'Emmanuel Macron en Chine, les promesses de contrats ont fusé de toutes parts et dans beaucoup de domaines, y compris culturels, pour un montant d'environ 15 milliards d'euros. Un voyage marqué également par la protection de la planète dans une capitale polluée. À Pékin, mercredi, notre correspondant Stéphane Lagarde était bien sûr présent.
La Marseillaise, le tapis rouge et les canons de l'armée populaire de libération ne peuvent rien contre la pollution d'un matin de novembre à Pékin, mais les présidents chinois et français ont le sourire en se retrouvant sur le parvis du Grand Palais du Peuple. Avec l'appel de Pékin lancé ce mercredi, la France et la Chine s'engagent sur la protection de la biodiversité. Ils réaffirment également leur soutien sans faille en matière de lutte contre le réchauffement climatique. La Chine et la France vont publier un plan d'action sur la protection de la biodiversité, affirme Xi Jinping, qui accueillera dans un an la prochaine COP sur la protection de la faune et de la flore. Face à l'urgence climatique, nos deux pays doivent prendre leurs responsabilités afin d'assurer une mise en œuvre totale et efficace de l'accord de Paris, poursuit le chef de l'État chinois, avant de rappeler l'opposition commune Chine-Europe face aux partisans de la loi de la jungle. Les États-Unis de Donald Trump ne sont pas cités par le président chinois, pas plus que par son homologue français, mais Emmanuel Macron y pense certainement très fort lorsqu'il dénonce les choix isolés de tel ou tel autre qui ne sauraient changer le cours du monde.
Il signe mémorandum d'entente sur les aires protégées, la lettre d'intention sur le financement du projet d'assainissement d'eau au Sénégal.
Et la lettre d'intention signée entre la China Development Bank et l'Agence française de développement ce mercredi sur un projet d'assainissement de la baie de Han au Sénégal entre justement dans le cadre de l'accord de Paris.
Quand le président et le gouvernement s'attaquent à la question de l'immigration, un projet de loi a été présenté cette semaine aux députés avec un grand retour, celui des quotas. Julien Chavannes.
Des quotas, oui, mais pas sur la nationalité des migrants, comme le proposaient François Fillon et Nicolas Sarkozy. La nuance est importante aux yeux d'un député En Marche venu du Parti Socialiste. Des quotas en fonction des besoins de main-d'œuvre, ce n'est plus du tout une idée de droite, veut croire cet élu. Illustration de ce plan qui tente de rejouer le « en même temps macronien », s'attaquer à des sujets de droite, mais sans dépasser une certaine limite pour ne pas être accusé de faire du Marine Le Pen. À Édouard Philippe maintenant d'assurer le service après vente d'une offensive lancée par Emmanuel Macron il y a plusieurs mois. Dans sa lettre aux Français publiée avant le grand débat post-Gilets jaunes, le chef de l'État évoquait déjà l'idée d'objectifs annuels d'immigration. À la rentrée, Emmanuel Macron place l'immigration en tête de ses priorités. Il appelle ses troupes à regarder le problème en face et impose un débat à l'Assemblée. Point d'orgue, la semaine dernière, 12 pages d'interview dans Valeurs Actuelles. Une main tendue sans complexe par le chef de l'État aux électeurs de droite et d'extrême droite, à 5 mois des municipales et à 2 ans et demi de la présidentielle.
Alors, le gouvernement veut aussi revoir la question de l'aide médicale aux demandeurs d'asile, cette fois Valérie Cohen.
L'idée avait été sévèrement critiquée par les associations, mais le gouvernement semble l'avoir actée. Il souhaite instaurer un délai de carence de 3 mois pour les demandeurs d'asile. Ceux-ci devraient donc attendre 3 mois avant de bénéficier de la protection maladie universelle, autrement dit la prise en charge de base de la sécurité sociale. Jusqu'à présent, ils y avaient droit une fois leur demande déposée. Une autre mesure concerne cette fois les étrangers en situation irrégulière qui peuvent, sous condition, bénéficier de l'aide médicale d'État, l'AME. Le type de soins pris en charge par l'AME est limité, mais la nouveauté est que certains actes médicaux non urgents pourraient faire l'objet d'un accord préalable de la Sécurité sociale. Ces mesures devraient figurer dans les amendements du gouvernement examinés jeudi à l'Assemblée nationale dans le cadre du budget santé. Pour Matignon, il s'agit de lutter contre les fraudes et les abus, mais d'après les associations, ces mesures vont précariser davantage des populations qui vivent dans des conditions difficiles.
Je vous rappelle aussi que plus de 1600 migrants ont été évacués jeudi matin de deux importants campements insalubres à cheval sur le nord-est de Paris et la Seine-Saint-Denis. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de notre ami Yann Mens, spécialiste des questions internationales, le magazine Alternatives économiques, qui titre ce mois-ci sur le logement, qui gagne et qui perd, et qui publie, on aura l'occasion d'en reparler, un supplément fort bien fait qui s'appelle Oblique, qui est un journal en tant que tel, un MOOC, c'est ce qu'on dit, non ?
Un MOOC, c'est ce qu'on veut. Un mélange de magazines et de livres, magazines et books.
Et qui est précieux parce qu'il nous propose de nous attarder sur ce qui ne va pas si mal aujourd'hui, 50 raisons de garder l'espoir.
Oui, oui, pour une fois, on a voulu, bien qu'on soit journaliste, ça, on a voulu parler des choses qui marchent, des trains qui arrivent à l'heure, parce qu'on n'en parle ça, pas souvent. Mmh. Et je pense que c'est très important de parler des choses qui vont bien, parce que sinon, nos contemporains dépriment. On est aujourd'hui, avec l'information continue, avec les réseaux sociaux, bombardés d'informations toutes les minutes, tous les jours, et souvent sur des informations négatives. Et je pense que c'est dangereux, ça peut favoriser des partis extrémistes, et notamment d'extrême droite.
Alors parlons, Yann, du voyage d'Emmanuel Macron en Chine. Beaucoup de contrats, des promesses de contrats et des propos un peu convenus, non ?
Sur les promesses de contrats, il faut savoir que tout ça, c'est...
Sur des promesses.
Oui, mais même c'est une mise en scène. Ce que je veux dire, c'est qu'on attend pour faire les signatures que le président vienne. Donc ça veut dire que c'est pas le président qui a obtenu les contrats.
Ça a été étudié avant
et ça se fait à ce moment-là. Ça fait un peu de solennité, c'est bien. Ça fait des flashs, des photographes, tout ça est très beau. Bon, après, il faut voir si effectivement les contrats se matérialisent. Sur ce qui concerne la biodiversité, c'est très bien que la France et la Chine s'entendent sur ce sujet, comme c'était très bien d'ailleurs que les États-Unis s'entendent sur le climat avant la COP21, mais c'était du temps d'Obama. Malheureusement, ça n'a pas tenu avec Trump, donc effectivement,
ça dépend. Il faut signaler qu'accord de Paris a été officiel. Résilié cette semaine. Hein,
Par les États-Unis, parce que jusque-là, pour des raisons administratives internes aux Nations Unies, ça n'était pas possible. En tout cas, c'est très bien que la Chine et la France entendent ces questions de biodiversité, d'autant qu'il y aura cette COP sur la biodiversité l'an prochain en Chine. En revanche, je pense que sur tout un tas d'autres sujets, il n'y a pas vraiment beaucoup de consensus entre la France et la Chine. Et ce qui me frappe, c'est que, une fois de plus, les dirigeants européens vont parler avec la Chine, chacun à leur tour. Angela Merkel d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre. Le jour où ils iront ensemble, ils auront un autre poids face aux interlocuteurs chinois. Mais ça suppose qu'ils se mettent d'accord sur les intérêts qu'ils veulent défendre. Or, les intérêts des entreprises françaises et des entreprises allemandes ne sont pas forcément convergents en Chine. Et donc, chacun y va de son côté. Et qu'est-ce que fait la Chine ? Ben, elle divise pour mieux régner.
J'ajoute qu'à Hong Kong, un étudiant est mort hier vendredi, ce qui risque de durcir encore plus l'ambiance sur place. Avant de parler de l'immigration, puisque nous parlons de l'actualité internationale avec Emmanuel Macron, ses propos dans le magazine The Economist sur l'OTAN et sur l'Europe. L'Europe qui serait au bord du précipice et l'OTAN qui serait mort sur le plan cérébral.
Tout ça est très, très catastrophiste et probablement excessif et donc dangereux. En tout cas, en ce qui concerne l'OTAN, je trouve que ça présuppose que tout le monde peut être d'accord avec la France et ça présuppose surtout que tout le monde a la même vision de l'OTAN. Or, pour une bonne partie de l'Europe, l'OTAN, c'est une protection. Alors, c'est évident pour les anciens pays du bloc de l'Est, la Pologne, la Hongrie, etc., qui regardent la Russie de Poutine en se disant que ces gens-là peuvent inventer demain pour nous nuire. Et pour ces gens-là, comme d'ailleurs pour l'Allemagne, comme d'ailleurs pour les Pays-Bas, comme d'ailleurs pour le Danemark, l'OTAN, c'est une protection. Alors, une protection très imparfaite et une protection dont la crédibilité a baissé depuis que Trump est arrivé. Mais quand même, c'est une protection. La France a toujours eu une espèce de mépris pour l'OTAN. Elle s'en est tenue à l'écart un peu. Elle y est revenue presque complètement. Et elle a toujours cette idée qu'il faudrait qu'il y ait une défense européenne. Le problème, c'est que pour qu'il y ait une défense européenne, très bien. Mais il faudrait que les autres Européens en soient convaincus, qu'ils soient prêts à payer et qu'ils soient prêts à s'équiper pour ça. Et pour beaucoup de pays européens, hors la France, en fait, l'OTAN, c'est une assurance vie pas trop chère qui leur évite à eux d'investir dans l'outil militaire. La France a fait un autre choix, mais elle a du mal à convaincre ses partenaires européens de faire le même.
Le retour de l'immigration dans le débat politique depuis quelques semaines à l'initiative d'Emmanuel Macron, toujours, le journal Le Monde signalait que nous en étions à la 50e loi quasiment sur l'immigration en 45 ans.
Oui. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est ces histoires d'objectifs annuels d'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardons deux secondes les chiffres. Je suis pas un grand fan des chiffres, mais regardons les chiffres. L'immigration sur laquelle vont s'appliquer ces fameux quotas, c'est l'immigration de travail. L'immigration de travail, c'est 11% des titres de séjour que la France délivre chaque année. L'essentiel des immigrés qui viennent en France et qui peuvent y séjourner légalement viennent au titre du regroupement familial, donc des parents, des enfants, pas les oncles et tantes, les parents, les enfants. Ensuite, les visas étudiants, la demande d'asile et enfin l'immigration professionnelle. Donc, est-ce que Emmanuel Macron est en train de nous expliquer qu'on va faire des objectifs annuels d'immigration sur 30 000 personnes? Est-ce que c'est ça qu'on veut réguler? Non, je pense qu'il y a de la communication politique. On parle de quotas, d'objectifs annuels pour faire croire à l'opinion publique qui ne regarde pas les chiffres de très près qu'on va réduire l'immigration. En l'occurrence, ça n'est pas vrai. On va la réguler différemment. C'est les 30 000 personnes. On va distribuer les emplois différemment et les visas, pardon, et les emplois qui vont avec différemment. Mais c'est tout. On va pas réduire l'immigration. Donc, objectif annuel d'immigration, ça ne veut pas dire grand chose. C'est de l'affichage politique à visée clairement électorale.
Une dernière chose, en ce qui concerne l'actualité française, la Française des Jeux a lancé jeudi la cession de plus de 52% de son capital, une opération qui pourrait rapporter à l'État presque 2 milliards d'euros. Vous allez acheter des actions ?
Non, certainement pas. J'ai pas envie d'acheter des actions pour des gens qui sont un peu intoxiqués par des marchands de rêves improbables.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, continuez à nous écrire, y compris sur la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Merci pour vos messages. Un bonjour aujourd'hui à Mariam qui nous écoute à Bamako. Bonjour à Awal, à Maroua dans l'extrême nord du Cameroun. Un salut à Farid qui est journaliste lui à Dakar. Bonjour à Oumar à Douala, à Barry à Conakry, à Jonas à Lubumbashi. Un salut à Lamine qui nous écoute à Bordeaux en France et à Noira à Berlin.
Une semaine d'actualité.
Direction l'Afrique donc, Yann Mince, avec d'abord un retour au Mali. Après l'attaque de la base d'Indelimane il y a 8 jours, vendredi dernier, attaque qui a fait 55 victimes dans les rangs de l'armée, dans un centre, une base qui se savait menacée, Marie-Pierre Olfan.
Les menaces sur le camp d'Indelimane étaient connues des Maliens et étaient même arrivées jusqu'aux oreilles des militaires nigériens, puisque selon nos informations, ils avaient renforcé leur vigilance au sud de la réserve de faune dans Songo-Menaka, une forêt d'acacia située à la frontière entre les deux pays, désormais devenue un repère pour les djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara. C'est là, à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Indelimane, qu'un regroupement suspect aurait été détecté plusieurs jours avant l'attaque grâce à des conversations captées par radio. Selon deux sources, l'une malienne, l'autre étrangère, les djihadistes avaient même effectué un repérage au moyen d'un petit drone il y a un mois. Et de fait, l'assaut visiblement bien préparé s'est soldé par un bilan humain mais aussi matériel très lourd. De sources officielles, les assaillants sont en effet repartis avec 9 véhicules. Comment expliquer de telles pertes dans un contexte d'alerte maximale ? Le manque d'assurance et de formation des soldats face au combat asymétrique, explique un responsable sécuritaire malien, qui pointe aussi l'absence de renforts rapides sur les lieux. Notre interlocuteur évoque également la difficulté récurrente pour les FAMA de se fier à des renseignements communiqués par des sources amies, mais souvent inexploitables.
Le Mali, qui est toujours sous le choc, on le comprend, non seulement les militaires, mais toute la société. Gaëlle Lalex.
Depuis samedi, Swatou Diabaté, militante féministe, s'habille en noir. Elle porte le deuil en soutien aux familles des militaires tués à Indelimane. Dans la nuit de lundi, Swatou et d'autres femmes ont organisé un rassemblement place de l'indépendance à Bamako pour exprimer leur dépit.
Ce dont nous souffrons aujourd'hui fait mal. Il y a la communauté internationale, il y a tellement d'armées extérieures chez nous et le carnage continue. Je ne peux pas comprendre. La France et tous ceux qui sont là, si eux aussi, ils ne peuvent pas gérer. Mais ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que ça laisse à comprendre? S'ils n'arrivent pas à accomplir la mission de la paix au Mali, ils peuvent partir.
Pour Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme, ces attaques signent aussi l'échec de la montée en puissance de l'armée malienne. Cette progression est pourtant l'atout maître brandi depuis des années par le gouvernement malien et ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme.
Ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas une réelle collaboration entre l'armée malienne et les populations dont elle assure la sécurité. Nous savons que c'est difficile, voilà pourquoi nous devons chercher la solution et créer cette confiance. Et cela passe par le professionnalisme de l'armée malienne. Il faudrait que nous ayons une armée professionnelle.
En plus d'un lourd bilan humain, l'attaque d'Indeliman a permis aux assaillants de repartir avec un arsenal conséquent et 9 véhicules.
Alors, t'as aussi une embuscade contre un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne dans l'est du Burkina Faso. Cette fois, elle a fait cette attaque plus de 30 morts et plus de 60 blessés. C'est la plus meurtrière enregistrée dans le pays depuis le début des violences djihadistes il y a près de 5 ans. Un deuil de 72 heures a été décrété jeudi. Ça ne s'arrange pas dans la région, dites-moi, Yann.
Non, ça ne s'arrange pas. Dans les situations sont évidemment différentes et contrastées au Mali et au Burkina Faso. Les groupes ne sont pas forcément les mêmes, même s'ils ont probablement des connexions, et sûrement même des connexions d'un pays à l'autre. Mais les objectifs des groupes ne sont pas forcément, et leurs méthodes ne sont pas forcément identiques. Ce qui me semble, c'est que comme dans beaucoup d'autres terrains de combat, les armées professionnelles, les armées régulières sont mal préparés, mal équipés pour affronter des mouvements de guérilla qui sont déterminés et qui sont un peu comme toujours la mouche du coche autour de ces grosses bêtes un peu lourdes que sont les armées régulières professionnelles. La variable dans cette affaire, c'est souvent la population. Est-ce que la population choisit un camp ou est-ce qu'elle ne choisit pas de camp? Et si elle choisit un camp, lequel est-ce? J'ai le sentiment qu'une partie de la population du Mali ou du Burkina n'a pas envie de choisir son camp. Une petite partie a choisi le camp des djihadistes pour des raisons qu'on pourrait probablement déterminer. Mais en tout cas, personne ne semble avoir vraiment choisi définitivement le camp du pouvoir. Or, si la population, il faut être clair, ne donne pas des informations à l'armée sur l'endroit où se trouvent les djihadistes, sur leurs mouvements, etc. Les armées n'ont pas les moyens de faire ça toutes seules, même avec des drones, je le crains.
Et ce qui pose aussi la question de la compétence de ces armées?
La compétence, bien entendu. Ce que disait Marie-Pierre Ulfant dans le reportage, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes de formation, peut-être de jeunes soldats qui sont envoyés sans trop de préparation au nord du pays, qui n'est pas forcément le pays, leur région d'origine, qui sont dans des bases bunkérisées, avec probablement des renseignements qui leur viennent de l'armée française ou d'autres, mais qui n'ont pas l'expérience nécessaire et la capacité. Mais une fois de plus, c'est pas seulement une question de formation. C'est simplement que c'est très compliqué pour une armée qui a une hiérarchie, une façon de travailler comme ça, d'affronter des mouvements de guérilla qui sont souples, qui sont agiles et qui sont rapides. Là, ce qui est le plus inquiétant peut-être, c'est que visiblement certains étaient au courant de la préparation et que les militaires qui allaient être attaqués n'ont pas été suffisamment bien assistés. Et c'est ça le plus inquiétant.
Alors Florence Parly, la ministre française de la Défense, était en tournée au Sahel. Elle a demandé à l'Europe d'envoyer des forces spéciales au Mali. Une douzaine de pays auraient donné leur accord pour former une force qui s'appellerait Sabre Takuba en Tamashek. Il faut y croire ou pas? Parce que les appels à la collaboration d'autres pays ont déjà été lancés en vain. À ce jour, non?
Oui, beaucoup de pays préfèrent envoyer des policiers, des spécialistes civils, mais pas forcément des gens des forces spéciales. Honnêtement, je crois que ce qu'il faudrait, mais ça me semble très compliqué à faire pour des Européens, ce sont des gens qui sachent faire du renseignement de terrain et qui permettent aux armées africaines de recueillir et d'exploiter des renseignements justement sur les mouvements djihadistes. Ce qui manque à ces armées, outre éventuellement la préparation au combat, c'est la capacité à collecter du renseignement, à l'obtenir. Mais il me semble que ça ne peut être fait probablement que par des Africains. Je ne crois pas que des Européens soient capables de le faire. Les forces spéciales, elles peuvent faire des coups,
actions, ouais.
Mais c'est pas ça qui va réduire le soutien, même passif, au mouvement de guérilla, qui est leur principal atout. Si elles peuvent se mouvoir comme un poisson dans l'eau, comme disait le président Mao Tse-tung, elles continueront à être extrêmement dangereuses et à tuer des pauvres militaires.
Alors, l'actualité africaine de cette semaine a aussi été marquée par une nouvelle manifestation à Conakry, jeudi. Une manifestation avec une forte participation, une marée rouge, puisqu'il faut rappeler que les manifestants sont habillés de rouge. Manifestants qui demandent, qui ne veulent pas d'un éventuel troisième troisième mandat du président Alpha Condé. Manifestations qui répondent à l'appel de la société civile, il faut le dire, et de l'opposition. Un de nos auditeurs, un fidèle de l'émission Hippolyte, écrit ceci: à l'allure où vont les choses en Guinée-Conakry, est-ce que le président Condé peut-il vraiment être candidat pour la troisième fois de suite? Fin de citation.
Il peut, au sens où je suppose qu'il est capable. Je pense qu'il est capable d'obtenir que ses partisans lui donnent la possibilité de le faire juridiquement. Je ne connais pas suffisamment bien les institutions guinéennes pour savoir comment on peut s'y prendre, mais d'autres y sont arrivés. Donc, je pense qu'il y a probablement moyen de trouver un arrangement politico-institutionnel pour qu'il le fasse. Les juristes sont très capables d'interpréter pour servir les intérêts de ceux qui les payent dans certains cas. Maintenant, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je pense que c'est un risque politique, probablement un risque politique majeur pour la Guinée, comme pour d'autres pays où effectivement on a vu que des affaires de troisième mandat peuvent très mal finir. Est-ce que ce sera suffisant pour arrêter le président Condé, qui a attendu pendant très 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 longtemps dans l'opposition et en exil avant de pouvoir accéder à la présidence? Et il y a malheureusement, il faut le dire, une addiction, comme pour les drogues dures, à l'exercice du pouvoir et surtout à l'exercice du pouvoir présidentiel.
Alors revenons maintenant sur l'intérêt de la Russie pour l'Afrique. Nous en avons parlé à l'occasion du sommet de Sotchi il y a quelque temps. Alors une preuve supplémentaire cette semaine de cet intérêt stratégique, c'est la visite à Moscou du chef de la diplomatie burundaise ces derniers jours, donc dans la capitale russe, Daniel Valo.
Pas question de reprocher au Burundi les violences qui ont éclaté dans le pays à la suite de la crise de 2015. Pas question non plus de critiquer les autorités de Bujumbura pour les pressions exercées à l'encontre de l'opposition. C'est ce qu'a réaffirmé ce mardi à Moscou le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l'issue de son entretien avec son homologue burundais.
Nous avons confirmé notre position inchangée au sujet de la souveraineté du Burundi. Et nous avons affirmé qu'une ingérence extérieure dans les affaires intérieures de ce pays était inadmissible.
Soutien complet aux autorités du Burundi, à l'inverse des pays occidentaux, c'est un message qu'apprécient les autorités du pays. Et le ministre burundais des Affaires étrangères, Yezekiel Nibigira, n'a pas manqué de le rappeler à son homologue russe.
Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple russe. Ici, je voudrais souligner les différents soutiens que le Burundi bénéficie de la part de la Russie. Ce qui se fait à travers différentes actions témoigne que nous avons des relations les plus profondes.
Le chef de la diplomatie burundaise, qui a lancé un appel aux investisseurs russes, venez constater par vous-même que tout va bien dans notre pays, avant d'ajouter que les élections générales de 2020 seront de véritables élections démocratiques et transparentes.
Terminons ce numéro d'une semaine d'actualité avec le rugby, Yann Mince. On parle peu de sport dans cette émission, mais on peut revenir quand même sur la victoire de l'Afrique du Sud en Coupe du Monde samedi dernier au Japon, car c'est plus qu'une victoire sportive, c'est la victoire d'une nation. Sur le retour au pays des Springboks et le début d'une tournée dans le pays qui a commencé à Soweto jeudi, écoutez ce reportage de notre correspondant Noé Oshé-Boda.
Au passage du trophée dans les rues de Soweto, Sibou Sissono peut retenir ses larmes.
Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les mots, ils me rendent tellement fier.
Les Sud-Africains des Townships préfèrent d'habitude le football, mais aujourd'hui, pour Nkululi, c'est à la fois fête nationale.
Merci et vive les Springboks.
Et aussi une occasion pour Soweto de se mettre à jouer au rugby.
Ce titre n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle époque pour nous. Nous avons beaucoup de jeunes noirs talentueux qui jouent au rugby. Sia nous montre la voie.
Sia, c'est Sia Kolisi, évidemment, premier capitaine noir de l'équipe, nouvelle coqueluche du pays, qui a converti beaucoup de noirs sud-africains comme Tsepo, 77 ans, à maintenant soutenir les Springboks.
Avant, on avait l'habitude de toujours être pour l'adversaire des Springboks à cause de l'apartheid. Mais aujourd'hui, je préfère soutenir les Box. J'ai regardé tous les matchs de la Coupe du Monde. De plus en plus de gens s'intéressent au rugby. C'est plus comme avant. Il y a des Noirs et des Blancs, des Métis, en vert et bleu. Tout le monde est intéressé aujourd'hui.
L'Afrique du Sud, des villes, des campagnes ou des townships, est encore sur son nuage, un nuage teinté arc-en-ciel. Et le sera jusqu'à lundi prochain, date de la fin de la tournée des Springboks.
C'était une belle victoire, effectivement, de l'Afrique du Sud, Yann. Alors, parlons de cet intérêt de la Russie pour l'Afrique. Réaffirmé, une nouvelle fois et en grande pompe, à Sochi, il y a quelques semaines, lors du sommet Russie-Afrique.
Oui, et puis sur un pays qui n'est pas, c'est pas faire insulte au Burundi que de dire qu'il n'est pas un très grand pays, très riche d'Afrique, où on peut soupçonner que les Russes vont faire des tas d'affaires très, très juteuses. Non, je crois que simplement la diplomatie russe cherche tous les endroits disponibles, c'est-à-dire tous les endroits où l'influence occidentale est vacillante, notamment l'Occident, l'influence américaine et européenne, et qu'elle s'y glisse, et qu'effectivement, en arrivant, elle a un peu le même argument que les Chinois, simplement les Chinois ont beaucoup d'argent qui vont avec, la Chine, pardon, a beaucoup d'argent qui va avec, qui est de dire, nous, on respecte vraiment tout ce que vous faites chez vous, faites ce que vous voulez, si vous nous laissez faire ce qu'on veut, nous, en Tchétchénie, faites ce que vous voulez dans votre pays, de la même façon que les dirigeants chinois disent aux Africains, ne vous occupez pas du Xinjiang, ne vous occupez pas du Tibet, nous, on s'occupe pas de ce qui se passe chez vous. Donc, de ce point de vue-là, ça fait l'affaire
le bon vieux principe de la non-ingérence.
Voilà. Ça fait les affaires des dirigeants, un certain nombre de dirigeants africains, et on sait bien que le président de Nkurunziza est pas très, très en cours aujourd'hui dans un centre de chancellerie occidentale pour un certain nombre d'actions de ses sbires au Burundi. Donc, mais en même temps, j'insiste là-dessus, la Russie arrive, pénètre, fait des déclarations, mais elle arrive avec peu d'argent, très peu d'argent. La Russie n'est plus un pays riche. La Chine a un tout autre poids économique pour les dirigeants africains. Elle peut offrir des choses importantes. Ce que peut offrir la Russie, et ça peut intéresser des pays africains, ce sont des armes. Et ça, effectivement, on l'a vu en Centrafrique.
Et ça, on l'a vu à Sochi aussi, où chaque président demandait en quelque sorte, faisait sa commande, passait sa commande.
Voilà. Alors ça, la Russie en a. La Russie a des armes, elle en fabrique, etc. Mmh. Elle peut en vendre, elle peut même parfois en vendre pas très cher, puisqu'elle doit avoir des stocks. Donc ça, effectivement, c'est un avantage comparatif. Mais en revanche, en termes d'aide aux entreprises, d'aide au développement, aux infrastructures, j'ai beaucoup de doutes, vu l'état des infrastructures russes, sur le fait que le gouvernement russe mette de l'argent dans les États africains.
Qui ne s'intéresse pas à l'Afrique aujourd'hui, au fond?
Oui, parce que c'est un investissement qui, dans certains cas, n'est pas très onéreux pour un peu d'influence. Cela dit, je ne crois pas que beaucoup d'États africains soient extrêmement dupes sur ce que peut leur apporter la Russie. D'ailleurs, on voit bien les endroits où la Russie a fait parler d'elle ces derniers temps, c'est la République centrafricaine, qui n'est pas un pays en très bon état, et c'est visiblement le Burundi, qui est un pays quand même relativement isolé sur la scène régionale.
Alors, terminons avec Oblique, ce supplément d'alternatives économiques, et on va parler des raisons de garder espoir, car il y en a.
Oui, on en a trouvé même une cinquantaine.
Vous avez trouvé 50 raisons de garder espoir, c'est quand même un...
Et ce sont des raisons chiffrées. Je tiens à, ce sont pas simplement des convictions comme ça qui tombent de nulle part. On a, comme toujours dans ce numéro spécial que nous faisons une fois par an, ce MOOC, ce mélange de magazines et de livres.
C'est un très bel objet qui mélange à la fois les textes, évidemment, les graphiques, les dessins, les bandes dessinées, les histoires. C'est un bel objet. Hein.
La dominante, l'idée de mon collègue Laurent Jeannot qui a eu l'idée de ce numéro, c'est qu'effectivement, c'est de faire illustrer des chiffres, non pas par des infographies, qui sont des choses souvent un peu austères, avec des courbes un peu tristes, mais par des illustrateurs, donc des gens qui font habituellement des choses qui sont belles, agréables à l'œil, surprenantes, et de mélanger ces deux choses, l'austérité des chiffres avec le plaisir de l'œil. Et là, on a titré le dossier sur les raisons d'espérer, parce que je crois vraiment qu'il faut rappeler qu'il y a des choses qui se passent, qui sont positives, mais qui parfois se passent à un rythme tellement lent qu'on ne les voit pas.
Par exemple, il y a deux pages consacrées à l'espérance de vie en Afrique, avec un très beau visage et un très beau graphique, qui nous apprend qu'en 2000, l'espérance de vie des Africains était à peine 51 ans, 50,8, et qu'en 2015, elle avait grimpé à 60,7, c'est-à-dire quasiment 61 ans.
Ouais, c'est très rapide, sur une échelle de temps qui est très courte. Mais effectivement, c'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça, comme une guerre malheureusement, ou un attentat, ça c'est spectaculaire, ça se voit tout de suite. Malheureusement, c'est négatif. Les choses qui s'améliore souvent à petit bruit et c'est très compliqué pour nous journalistes de les raconter.
Et d'ailleurs, sachez, vous qui nous écoutez, que tout ne va pas si mal, c'est le titre de ce numéro d'Oblique. Merci Yann.
Merci à vous.
On se retrouve à la fin de l'année pour revivre les grands moments de l'actualité de l'année, comme nous le faisons sur deux semaines chaque année. Merci.
Avec plaisir.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées et nous parlerons cette fois de biodiversité, de la richesse du monde végétal avec Marc Janson, qui a été jusqu'à récemment le directeur de l'herbier national au Jardin des Plantes à Paris. Nous serons d'ailleurs dans ce havre de paix et de richesse végétale au cœur de la capitale française. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.